téléphone 05.
Mardi 7 décembre 2021, il est midi et vous écoutez le magazine de Canal Sud. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine sur les ondes de Canal Sud. Et aujourd'hui, sans attendre, comme c'est mardi, vous l'attendiez depuis une semaine, je sais, les journées ont été longues sans cette chronique travail. C'est parti.
Créer, charbonner,
job,
bûcher. Gagne-pain,
chagrin,
cabinet, tôle, urbain,
gagne-pain,
AVS,
créateur,
charbonnier, infirmière,
tôle,
travailleur du sexe,
pénis,
preneuse de son,
exécuté,
ouvrier agricole.
Plancher,
quel que soit notre rapport au travail, chacune et chacun d'entre nous a une expérience à partager sur les faits et méfaits du turbin. C'est cette expérience que nous souhaitons explorer. Observer le monde par le prisme du travail et ses conditions d'exercice. Le principe de l'émission est simple, un même questionnaire pour différentes expériences au travail. Une trame de questions inspirée des enquêtes ouvrières ou enquêtes conscientisantes, qui donne à ces entretiens un aspect à la fois universel et singulier. Une même trame qui parle d'organisation du travail, de hiérarchie, d'outils, de solidarité, d'évaluation, de sens, d'épuisement. Une trame qui mêle vécu et analyse.
C'est mardi, vous êtes sur Canal Sud et c'est la chronique travail. Bonjour.
Bonjour.
Salut à vous.
Donc, bienvenue à toi.
Merci.
On va t'appeler Antoine aujourd'hui. Tu vas donc nous parler de ton expérience, qui est une expérience particulière. Donc, c'était quoi le travail déjà? Est-ce qu'il y a un nom à ce métier? Est-ce qu'il y a...
Alors non, c'est un métier qui n'existait pas il y a 20 ans ou 30 ans de ça, mais c'est dans les huîtres, dans une industrie de production d'huîtres. Donc voilà, et moi j'étais saisonnier là-dedans.
D'accord. C'est une saison qui a duré combien de temps?
Alors moi j'y étais pour 7 mois.
D'accord. C'était où?
C'était donc basé à La Rochelle et avec plusieurs sites de production sur l'île de Ré.
D'accord. C'était qui ton employeur?
Alors mon employeur, c'est une entreprise familiale qui s'est développée donc sur cette production assez particulière de naissins ou de juvéniles d'huîtres. Donc,
est-ce structure. Que tu peux nous dire ce que c'est qu'un naissin ou un juvénile d'huîtres?
Eh ben, c'est les bébés huîtres.
Ouais,
c'est
okay.
Avant que l'ostréiculteur ne les mette en casier. Ne les élève pendant 2 ans jusqu'à leur taille consommable, commerciale, sous laquelle on la connaît.
D'accord. Donc, cette entreprise est une sorte de couveuse.
C'est un peu ça, oui, on peut dire ça.
D'accord.
Disons que c'est ce qui, traditionnellement, se faisait par un captage. Donc, on mettait en mer des structures, les collecteurs, pour récupérer des larves d'huîtres. Et maintenant, ça se fait, disons, dans des conditions, alors on dit soit de laboratoire ou d'industrie, en tout cas dans des milieux contrôlés, qui font que les ostréiculteurs commencent leur travail à un stade plus tardif, disons, du cycle de l'huître, quoi.
Donc toi, ça veut dire que l'entreprise pour laquelle tu travaillais produit des bébés huîtres pour les vendre aux ostréiculteurs.
C'est ça. C'est ça.
D'accord. Et l'idée étant de pouvoir vendre des huîtres toute l'année.
Aussi, oui.
Voilà, de faire des huîtres qui résistent à tout et qui sont complètement, j'ai envie de dire, toute la même forme. Je permets.
Ouais, plus homogène.
Calibrées, toutes c'est calibrées, ça. Plus pratique pour le commerce. Donc la nature de ces huîtres, c'est quoi ?
Alors là, c'est exclusivement des huîtres triploïdes. Donc c'est une modification des parents qui fait que la descendance est stérile, donc alloue toute son énergie à la croissance, qu'elles grandissent de manière plus homogène et qu'elles ne sont pas laiteuses, ce qui peut rebuter voilà, certains.
Parce que laiteuses, ça veut dire qu'elles sont en train de produire des gamètes pour se reproduire. Et là, elles ne se reproduisent pas, c'est ça ?
C'est ça.
Elles sont stériles pour le bien des consommateurs.
On peut dire ça.
Ok, donc on est sur de l'huître modifiée génétiquement.
Alors après, les appellations légales, elles font débat. C'est en tout cas pas considéré comme de l'OGM. Il y avait voilà, une notion d'OVM, organisme vivant modifié, mais bon, en fait, on ne sait pas si c'est là-dedans non plus. En tout cas, tout le monde sait quand même, enfin, dans les producteurs de ces huîtres, a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'étiquetage, donc il y a un certain flou artistique sur qu'est-ce qui est quoi.
Sur les appellations. Et peut-être que l'entreprise n'a pas trop envie d'éventer ce type de propos. Je crois qu'elle elle cherche vraiment à se doter d'une image agroécologique, alors qu'on est, j'ai envie d'un peu de planter le cadre un peu de ton travail. On est sur une entreprise hyper industrialisé.
Bah oui, c'est ça, puisque bon, alors il y a plusieurs parties de la production. Ça commence dans des écloseries. C'est comme un laboratoire avec des cuves, des fioles, un milieu contrôlé. Ça pour la reproduction des huîtres, la production des larves, leur fixation. C'est-à-dire fixation, qu'elle commence à construire une coquille. Et puis après ce premier stade, elle passe en milieu ouvert, mais bon, c'est toujours... on est sur d'anciens marais salants, sur lesquels, donc en fait, il y a une dalle et puis des rangées de seaux qui font des sortes de champs de seaux avec des huîtres dans ces seaux. Et nous, on circule à travers ce dispositif-là, avec des machines à côté pour plusieurs opérations, les trier par taille, les nettoyer les seaux au karcher. Donc ça, c'est, disons, une phase qui n'existait pas dans l'ostréiculture traditionnelle et qui a été donc mécanisée et puis rationalisée. Donc avec c'est une chaîne de production où chacun a sa place et où tout est rationalisé, disons.
D'accord. Ok, voilà un peu pour l'entreprise plantée. Donc quand même, c'est une entreprise qui a plusieurs sites, des sites à l'étranger, au Portugal, à Haïti, 3 sites en Charente-Maritime, des milliards de larves traitées, nourries, on fabrique du plancton. Bon voilà, c'est hyper industrialisé, très rationalisé comme tu l'as dit. Alors, t'es arrivé en saison là-bas, quelle était ta mission ? Deux, ton volume horaire et tes conditions.
Moi, ma mission, c'était... Il y avait plusieurs postes sur lesquels on pouvait tourner. Globalement, c'est ouvrier échelon 1, quoi, donc a priori non qualifié. La formation est assez rapide. On arrive sur place, on nous montre ce qu'il y a à faire, mais on est tout de suite opérationnel et productif. Le volume horaire sur le contrat, c'était 35 heures. Dans les faits, beaucoup d'heures supplémentaires. Une semaine, en moyenne, ça allait de 45 à 60 heures. À ça, il faut rajouter les temps de trajet, puisque impossible de se loger sur place, sur l'île de Ré. Donc, on était tous à La Rochelle. Et puis, je ne sais plus si vous demandiez les rémunérations, mais c'est un peu plus que le SMIC, quoi. C'est brut, c'était 11,50 de l'heure.
Heures supplémentaires payées.
Ouais, alors ça, c'était ce qui était mis en avant, puisque maintenant, c'est loin d'être le cas partout. Donc, ouais, heures supplémentaires payées. Et majorées, enfin, comme de droit, quoi.
D'accord. Ta mission, toi, ton travail, est-ce que c'était quelque chose de répétitif toute la journée? Est-ce que tu avais le contrôle sur une étape de production ou juste larbin ou manard à porter des sauts, les mêmes allées, les mêmes...
Il y avait plusieurs postes sur lesquels on pouvait tourner. Après, on décidait pas à quel poste on allait et combien de temps on y restait. Donc ça pouvait être une heure, deux heures, une demi-journée, un jour, deux jours. Bon, le fait de pouvoir changer de tâche, ça permet de pas s'épuiser sur des mêmes mouvements qui sont quand même très répétitifs. Mais non, oui, sinon c'est quand même globalement un boulot d'exécution sans chercher à comprendre, quoi. Alors on est là pour recevoir les consignes, les ordres et les appliquer. Et puis c'est plutôt le bas de l'échelon, quoi, les emplois saisonniers.
Ouais. Est-ce que tu nous raconterais une journée type de cette saison ?
Alors la journée type, bon, l'horaire d'embauche change un peu tout le temps. Ça, on l'apprend la veille au soir par un SMS qui arrive de manière assez aléatoire. Bon, globalement, c'est 7h, 7h30. Bon, alors on a quand même 3/4 d'heure de trajet avant ça. On arrive, il faut se changer parce qu'on a une tenue pour travailler dans l'eau, donc des bottes hautes qu'on appelle des cuissardes, avec une sorte de salopette, une cotte qu'on appelle ça. Un ciré s'il fait un sale temps, puisqu'on est dehors. Et puis après, ça y est, on descend les pieds, les mains dans l'eau sur ce marais où c'est nursery. Et donc la journée type, c'est en fonction du poste. Ça peut être... donc il y a des journées qui seront plus sur un certain type d'activité, comme par exemple laver les huîtres, ou alors d'autres journées qui seront plutôt pour le tamisage. Donc là, c'est un peu plus de manutention.
Tamisage, ça veut dire quoi ?
Alors, tamisage, c'est sortir les huîtres de leurs emplacements, les amener à la machine. C'est une machine qui les trie par taille, puisqu'en fait, régulièrement, il faut reconstituer des lots d'huîtres de même taille pour qu'il n'y ait pas les plus grosses qui empêchent de grandir les plus petites.
Je t'interromps une seconde.
Vas-y.
Pour les auditeurs, là, on est en train de parler de bébés huîtres qui font entre 1 et 4 mm.
Oui, c'est ça, même parfois moins d'un millimètre, ça commence à un demi, et puis ça va jusqu'à 5 ou 6 millimètres.
Voilà, et qui sont stockés par milliers et par millions, donc dans des seaux selon leur maturité et leur étape de croissance. Excuse-moi.
C'est ça. Non, mais c'était ça. Donc la journée type, voilà, on embauche sans vraiment savoir à quelle heure on s'arrêtera le midi. Puisqu'il n'y a pas d'horaire précise pour la pause, il n'y en a pas le midi. Bon, après, on est censé ne pas faire plus de 6 heures d'affilée, ce qui est la loi. Et puis, donc, 45 minutes pour manger, et puis on recommence jusqu'à... alors, en fonction du programme, qui n'est jamais non plus très, très fixe, ça peut être jusqu'à 4, 5, 6 heures du soir. Donc, bon, des bonnes journées.
Et tu ne le sais jamais à l'avance quand tu vas débaucher.
Non, tu apprends d'une minute à l'autre que ça y est, tu peux aller manger ou tu peux débaucher ou on va encore faire ça. Ou... Donc, c'est la flexibilité, voilà.
Voilà. À la décision d'une personne, on en reparlera, ton patron qui travaille avec toi et qui te dirige et contrôle.
Ouais, c'est ça.
Fais une petite pause musical.
Pour me rendre à mon bureau, j'avais acheté une auto, une jolie traction avant qui
qui filait comme le vent. C'était en juillet 39, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois d'avoir une voiture à moi. Mais 20 septembre et je pars pour la guerre. 8 mois plus tard, en revenant, réquisition de ma 11 chevaux légère, string verboten provisoirement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète une moto, un joli vélo moteur faisant du 40 à l'heure. À cheval sur mon teuf-teuf, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Elle ne consommait presque pas d'essence, mais presque pas, c'est encore trop. Voilà qu'on me retire ma licence, j'ai dû revendre ma moto. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète un vélo, un très joli tout nickelé, avec une chaîne et deux clés. Monté sur des pneus tout neufs, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois d'avoir un vélo à moi. J'en ai eu coup sur coup une douzaine, on me les volait périodiquement. Comme chacun devalait le prix d'une Citroën, je fus ruiné très rapidement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'ai pris le métro. Ça ne coûte pas très cher et il y fait chaud l'hiver. Alma, Iéna et Marbeuf, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Hélas, par économie de lumière, on a fermé bien des stations. Et puis ce fut la ligne tout entière qu'on supprima sans rémission. Pour me rendre à mon bureau, j'ai mis de bons godillots et j'ai fait 4 fois par jour le trajet à pied. Aller-retour, les Tuileries, le Pont-Neuf, je me gonflais comme un bœuf, fier de souffrir de mes corps pour un si joli décor. Hélas, bientôt, je n'aurai plus de godasse, le cordonnier ne se mêle plus. Mais âne me prudente et perspicace, pour l'avenir j'ai tout prévu. Je vais apprendre demain à me tenir sur les mains. J'irai pas très vite bien sûr, mais je n'userai plus de chaussures. Je verrai le monde de bas en haut, c'est peut-être plus rigolo. J'y perdrai rien par surcroît, il est pas drôle à l'endroit.
Vous êtes toujours sur Canal Sud 92.2 et c'est le magazine et on est dans la chronique travail. On est avec Antoine qui travaille dans l'industrie huîtrière sur la côte ouest. Alors pour continuer, parlons organisation du travail si ça te va. Combien est-ce que tu as de collègues dans cette boîte ?
Alors deux collègues, on est en tout... une dizaine déjà dans mon équipe, avec d'autres équipes où il y a peut-être un peu moins de monde, 5 ou 6. Au total, selon les rangs de chacun, ça doit faire 15, 20 personnes. Mais bon, au quotidien, nous, on est une dizaine à travailler vraiment ensemble et à peu près sur les mêmes missions, quoi.
Et en tout, dans l'entreprise, est-ce que tu as une idée de combien il y a de salariés ?
Le nombre exact, je ne sais pas, je dirais une vingtaine.
Ok, donc il y aurait deux équipes à peu près comme vous.
Non, parce que l'autre équipe, c'est 5-6 personnes, c'est les marins. Et puis après, il y en a qui restent dans les entrepôts, plus pour la manutention, les réparations. Et puis après, il y a l'encadrement, qui sont des personnes aussi salariées, qui, à mon avis, doivent permettre d'arriver à la vingtaine.
D'accord. Et c'est quel genre, ces collègues ? Qui est-ce qui fait ce travail, en gros ? Quel âge ? Quel genre ?
Alors, autour de moi, c'était beaucoup... plutôt jeunes, quand même. Je dirais qu'un pic autour de 22, 23 ans. Soit en sortie d'études, soit en pause pendant les études. Soit en arrêt d'études. Après, il y avait quand même... toutes les tranches d'âge représentées. C'est plutôt quasi exclusivement masculin, du coup. Ça, par rapport à la pénibilité, surtout. Et voilà.
toi, tu étais saisonnier. Est-ce que c'était le cas de la plupart de tes collègues ?
Alors,
saisonnier sur 8 mois.
Ouais, il y avait plusieurs types de contrats. Il y avait quelques-uns en CDI. Mais la grosse majorité, oui, en saisonnier. Donc éventuellement renouvelable d'une année sur l'autre ou alors prolongeable en CDD. Pas beaucoup d'intérim, très peu, vraiment exceptionnel. Non, la grosse majorité, oui, c'est ce statut de CDD saisonnier.
D'accord. Et tu disais qu'il y a des gens en CDI. Est-ce que ces personnes ont la même fonction que les personnes en saisonnier ou alors les fonctions sont différentes ?
Elles travaillent avec nous. Après, c'est des postes forcément un peu moins pénibles. Après, on est quand même 9-10 heures par jour, les pieds et les mains dans l'eau. Mais ça va être s'occuper de telle ou telle machine, l'approvisionner. Après, il y a des CDI qui ont plus des fonctions d'encadrement, donc nous superviser, faire la liaison avec la direction. Donc non, c'est à la fois les échelons de salaire, ça reste à peu près les mêmes. Si ce n'est que quand on est CDI, voilà, on négocie une meilleure paye, on est augmenté chaque année, on a quelques avantages, mais bon, quand même un rapport au travail un peu différent, puisque quand on est saisonnier, on sait qu'on va pas forcément en rester, et quand on est CDI par opposition, on considère normal de passer un petit peu à autre chose que ce qu'on nous donne quand vraiment on débarque dans l'entreprise, quoi.
Ok. Et du coup, au sein de ces saisonniers, au sein de tes collègues, c'est quoi un peu les rapports dans l'équipe ?
C'est un peu les rapports qu'on a quand même quand on se sent dans un peu sur le même bateau, dans une galère un peu commune. Alors, il y a pas mal d'entraide, de coups de main, de tuyaux qu'on se donne les uns les autres pour voir les bons gestes, les bonnes postures, les manières de se préserver un peu. Ça peut aller... Ça peut comprendre beaucoup de choses quand même. Pas mal de faire en sorte aussi qu'il y ait une bonne ambiance, un peu de bonne humeur quand même dans tout ça. Donc ça déconne pas mal, plus ou moins selon le rythme du boulot. Après, tout ça, c'est jamais acquis. Il y a quand même... des possibilités de se jalouser les uns les autres sur qui a tel poste alors qu'il est plus ou moins là depuis longtemps. Ou de dénigrer celui qui va pas assez vite, qui a pas la bonne... qui nous revient pas. Donc on peut arriver sur des logiques où il y a un mouton noir qui fait qu'on termine pas à l'heure, que ça traîne. Mais globalement, non, il y a plutôt... Le groupe a quand même tout intérêt à être soudé pour passer la saison ensemble. Quoi. On est 10 heures par jour au coude à coude, donc
okay.
Globalement, c'est des rapports d'équipe, quoi, d'entraide.
Et donc, 10 heures par jour pendant 8 mois ?
Alors 8 mois, c'est le maximum légal pour une saison. Non, ça peut aller de 2 mois pour les étudiants qui viennent là juste l'été, à 3 ou 4, ou moi j'étais là à 7, et 8 pour ceux qui sont restés plus longtemps avant d'être renouvelés, soit en autre CDD, soit en CDI.
Tout à l'heure, tu disais que vous étiez hébergé ailleurs que sur l'île, parce que l'île n'est pas accessible financièrement à l'hébergement. Est-ce que c'est un hébergement qui est pensé par l'employeur ? Ou est-ce que vous êtes autonome sur cette question ?
Non, ça c'est à notre charge de nous loger. Sur l'île, les campings ne veulent plus de saisonniers parce qu'on fait trop de bruit, on fait trop la fête. On n'a pas non plus le droit de faire du camping sauvage, d'amener un camion, une caravane, ça c'est interdit. Pour passer le pont, déjà, il faut payer en fonction du tonnage du véhicule aussi. Du coup, non, le logement c'est assez compliqué, ça peut être... de l'Airbnb, ça peut être de locations dans le parc privé, sauf qu'après, quand l'été arrive, les bailleurs, les, veulent plutôt prendre des vacanciers, donc faire des locations à la semaine. Donc oui, en fait, les saisonniers, on voudrait qu'ils soient là, mais qu'on les voit pas trop, quoi.
Et du coup, vous étiez hébergés dans des endroits ensemble ou pas,
non,
à La Rochelle?
Non, c'est chacun. Il y en avait quand même pas mal qui étaient encore chez leurs parents aussi.
D'accord, des gens du coin et...
Oui.
Ok. Est-ce que dans le cadre du travail, vous aviez un lieu dans lequel vous retrouvez pour les pauses repas, pour des moments ensemble au
cours de la journée? Surtout pour la pause repas, le midi, donc on avait un mini réfectoire, ouais.
D'accord. Et vous aviez du temps dans ce lieu sans la hiérarchie ou pas?
Oui, a priori, on pouvait être entre nous. C'est 45 minutes le midi, donc ça passe vite, le temps de se changer, de fumer une clope, de réchauffer sa gamelle. Puis c'est aussi quand même un moment où on veut un peu aussi penser à autre chose, pas trop se prendre la tête, pas forcément revenir sur ce qui a coincé, mais potentiellement on peut débriefer, pourquoi pas s'organiser, en tout cas parler de ce qu'on veut en fait.
Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'organise la hiérarchie dans cette entreprise?
Alors du coup, il y a la direction, donc c'est une entreprise familiale avec les fondateurs qui forment un couple et puis leurs quatre enfants. Et puis après, la hiérarchie, c'est par ordre d'arrivée des salariés, donc les salariés de toujours, assez fidèles, qui sont là depuis 20 ans. Et puis en descendant, les chefs d'équipe qui, je sais pas, ont 5-10 ans d'ancienneté. Il y a les salariés CDI qui sont plutôt... sur les postes en mer, sur le bateau, donc tous en CDI. Et puis après, dans les marais, là où on était nous, donc c'est des CDI saisonniers, un ou deux CDI. Mais voilà, donc ça forme une petite pyramide, comme ça.
Est-ce qu'il y a des moments d'organisation collective, des réunions, des points dans la semaine ou plutôt le travail, c'est sur le terrain?
Alors, il se peut qu'il y ait des sortes de briefings où on rappelle un peu les consignes et les protocoles qui souvent ont été zappés parce que trop de boulot. Pour aller vite, on fait au plus efficace. Ou alors pour, en théorie, discuter, faire des retours, sauf que dans les faits, très peu. C'est souvent un moment à la débauche qui n'est pas compté comme du travail. Donc tout le monde a plus ou moins envie de rentrer chez soi quand même. Et puis, quoi qu'on dise, on a quand même un peu d'expérience sur le fait que ça soit quand même toujours la même chose et que bon, nos avis, on est bien gentils, mais on peut toujours les donner, voilà. C'est pas vraiment dans ce sens-là que les choses bougent trop.
Est-ce que vous êtes évalué? Ou est-ce que tu as la sensation que vous êtes évalué au cours de la journée de travail?
Pas formellement. Après, il y a toujours un contrôle diffus du chef d'équipe, du patron qui travaille avec nous, donc qui voit ce qu'on fait, qui ont besoin de regarder les huîtres pour... vérifier tout un tas de paramètres sur les maladies, la vitesse de croissance. Donc, ils voient si on les a bien nettoyés, si on a bien remis les seaux droits, bien rebâchés. Et après, là-dessus, donc on peut avoir des remarques, mais c'est pas une évaluation comme dans d'autres métiers, avec des grilles, des notes. Enfin bon, c'est un peu informel, quoi.
Est-ce que toi, tu as l'impression que l'équipe peut mettre la pression à d'autres parce que votre rapport à la productivité a une incidence sur le travail des collègues? Si tu vas moins vite, est-ce que ça peut compliquer le travail de ta voisine ou pas, ou de ton voisin plutôt, là, j'ai l'impression?
Oui, assez clairement. Il y a toujours une tension entre le fait de tout faire le plus vite possible pour débaucher, vu qu'il peut y avoir une forme de partie finie qui nous fait miroiter. Sauf qu'en même temps, le programme n'est pas fixe, donc on peut en rajouter, donc on peut faire le plus rapidement possible pour avoir bouclé à 3-4 heures l'après-midi, et puis qu'on nous en rajoute jusqu'à 6 heures, ça c'est pas exclu, et c'est même la norme. Donc ça me semble pas être le meilleur des calculs de se mettre cette pression. Non, au bout d'un moment, on arrive à la conclusion qu'on est obligé de se préserver un peu et de faire les choses à un rythme sur lequel on va pouvoir tenir toute la semaine et toute la saison, quoi.
Est-ce que dans ton travail, il y a des sanctions, des récompenses ou des trucs qui, à ton avis, ont des incidences sur une évolution de carrière dans la façon dont... Enfin, dans le quotidien.
La récompense, entre guillemets, si la saison s'est bien passée selon les critères de la direction, c'est de pouvoir rester, se voir proposer un poste, puisqu'ils sont quand même toujours en recherche de main-d'œuvre, vu que c'est quand même pas un métier sur lequel on... Enfin, il y a beaucoup aussi de roulement, c'est assez ahurissant. Sur la dizaine de saisonniers, il y en a peut-être deux ou trois qui vont signer quelque chose après. Après, des sanctions, non, pas vraiment.
Ok. Personne autour de toi, pendant les 7 mois que tu as passé, n'a été licencié ou de trucs comme ça? Ou tu n'as pas entendu de récits de ce type auprès de tes collègues?
Non, il y a eu des démissions, il y a une tradition, voilà, d'abandon de poste, parce que c'est quand même, ça peut surprendre et rebuter pas mal. Non, après, des licenciements, non.
On vient d'évoquer l'organisation un peu de ces activités, de ce travail. On va parler un petit peu des responsabilités, d'une éventuelle charge de travail, charge mentale, et aussi les outils. Donc tu nous as dit un petit peu quelles étaient tes missions dans le cadre de ta journée type. Est-ce qu'il y a quelque chose pour laquelle tu étais tenu pour responsable? Par exemple, le nettoyage des huîtres ou autre? Voilà. Est-ce que, par exemple, ton patron te tient responsable de quelque chose comme ça?
Oui, chaque fois qu'on va à un poste, on est censé suivre le protocole de ce poste. Alors, au début, on a un ou deux postes plutôt simples, et plus on comprend le fonctionnement de la chaîne de production, plus on va pouvoir maîtriser plusieurs postes, dont certains un peu moins casse-pieds que d'autres. Et oui, là, on est responsable de la propreté des huîtres ou des seaux ou des structures qu'on va gratter avec une raclette, passer la brosse, passer le karcher. Bon, dans les grandes lignes, voilà, il faut que ça soit propre après notre passage, quoi.
Oui. Est-ce que ces responsabilités sont formalisées dans le contrat? Est-ce qu'elles sont formalisées comment? Ou c'est une discussion orale entre deux égouttoirs et deux seaux?
C'est un peu les deux. Dans le contrat, il faut être minutieux, respecter les consignes. Tout ce qu'il y a dans un contrat de travail en termes de subordination, quoi. Après... ça se fait aussi beaucoup sur place, au cas par cas. Après, on voit, enfin, il y a aussi une forme de confiance entre guillemets qui s'installe, où on voit bien comment les uns et les autres travaillent. Donc, au bout d'un moment, ça, quand ça tourne, on rentre dans une forme de routine aussi.
Ouais. Il y a des travailleurs qui trouvent, des travailleuses qui trouvent qu'elles n'ont pas assez de responsabilités et qu'elles sont infantilisées. D'autres, à l'inverse, pensent qu'elles ont trop de responsabilités au regard d'un salaire ou d'une fonction et trop de charge mentale. Toi, dans ce travail, t'en étais où par rapport à ce volume de responsabilités? Est-ce que tu t'es senti infantilisée ou au contraire, est-ce que tu avais une charge trop importante?
Comme je disais, les responsabilités, c'est assez sommaire, hein. Il n'y a pas à réfléchir ou à prendre beaucoup de décisions. En avoir plus, c'est très vite en faire un peu moins soi-même et un peu plus pour les autres, regarder un peu plus les autres, charrier les brouettes empiler les seaux. Bon. Et puis après, on arrive sur des postes d'encadrement où bon, on est au téléphone avec le patron en permanence, on donne des ordres, donc c'est bon, c'est, faut le vouloir. C'est plus la même chose après.
D'accord. Parlons de tes outils de travail. On a utilisé, tu as utilisé des vocabulaires très spécifiques. Les outils, on les a évoqués, hein, donc c'est un peu compliqué à visualiser cette entreprise et cette industrie. Il faut imaginer des marais, des grandes constructions en béton, des espèces de goulottes dans lesquelles on met des seaux. Tu as parlé de tri, de tamisage, tout ça, ce sont des machines industrielles.
Oui, c'est comme un peu une usine à ciel ouvert. Donc ces anciens marais salants où on exploitait du sel, qui ont été aménagés donc en une grande zone de lagunage où l'eau circule pour se charger en plancton que vont manger les huîtres. Et puis une petite zone où on travaille avec une dalle en béton et puis des rangées de seaux entre lesquels on navigue avec sur le bas-côté des plateformes sur pilotis où on a un karcher, une machine qui va tamiser, des stockages de matériel, voilà.
Très bien. Alors,
c'est quoi le son du lieu où tu travailles? Est-ce que c'est très bruyant? Comment c'est? Eh ben, ces machines, elles font quoi?
On croirait pas, mais c'est assez bruyant parce que l'eau fait un bruit de cascade en permanence puisqu'elle circule à travers les structures d'élevage. Donc ça fait un brouhaha. Et puis par-dessus se rajoute. Alors les machines, c'est pas vraiment le plus bruyant, surtout le karcher, puisqu'on l'applique quand même d'assez près. Donc, ouais, il vaut mieux mettre des bouchons, sinon on en a plein la tête, ouais.
On va parler vocabulaire spécifique, abréviations ou autres, qui font partie un petit peu de chaque travail. Désolé, je cherche mes mots. Qu'est-ce que c'est une triploïde? On l'a utilisé comme si tout le monde savait. C'est 97% des huîtres que chacun et chacune mange. C'est quoi une triploïde?
Alors, j'avais pas ce chiffre de 97. Nous, c'est sûr que c'est 100% de ce qui était produit dans l'entreprise. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a au moins plus de la moitié des huîtres consommées qui maintenant sont triploïdes. Donc ça désigne une manipulation génétique qui rend la descendance stérile, donc triploïde, parce qu'il y a trois jeux de chromosomes au lieu de deux. Voilà, donc les ostréiculteurs s'approvisionnent avec ces huîtres-là parce qu'elles grandissent plus vite, en 2 ans en moyenne au lieu de 3. Et puis après, il y a des préférences de consommation où elles sont plus charnues, moins laiteuses. Voilà, triploïde, ça désigne ça.
On est un peu... Je peux pas m'empêcher de penser à Monsanto avec ses graines stériles. Les ostréiculteurs se retrouvent dans ces mêmes positions que les paysans à devoir racheter tous les ans des unités, du coup.
On pourrait comparer ça, ouais, à une entreprise semencière qui se spécialise dans la production de semences et puis après, les agriculteurs, les maraîchers, les céréaliers et compagnie se fournissent chez un semencier. Mais ce qui est maintenant la norme en agriculture et ce qui l'est aussi de plus en plus en aquaculture. Parce que on capte de moins en moins d'essaims en mer, vu que les mers sont polluées, les naissains meurent. C'est une production de masse quand même, donc ça représente des volumes d'huîtres qu'on pourrait pas se procurer entre guillemets naturellement. Donc c'est un tout qui fait que parfois les ostréiculteurs externalise cette partie-là de la production à une entreprise productrice de naissin.
D'accord. Donc le naissin, c'est l'huître ou c'est un groupe d'huîtres?
Non, je crois que c'est l'huître.
C'est l'huître.
Nous, on en voit donc défiler des milliers, des millions. Au début, ça ressemble à des comme des paillettes ou des petits grains de sable au fond des seaux. Puis plus ça grandit, plus c'est reconnaissable. Et quand ça atteint 5-6 mm, ça part en mer pour grandir dans des structures, sortes de filets qu'on suspend dans des champs de filières. Et où là, ça va atteindre une taille où on pourra le revendre aux ostréiculteurs. Donc quelques centimètres, quoi.
Des champs de filières, ça m'a l'air d'être un vocabulaire aussi pas forcément compréhensible par tout le monde. Tu peux nous décrire à quoi ça ressemble, ce bidule?
C'est des sortes de longues filières, des cordes, quoi, tendues en pleine mer, qu'on approche avec un bateau et sur lesquelles on va les suspendre. Je sais pas, comme une corde à linge, mais sous l'eau, on va suspendre des filets. Donc on appelle ça des lanternes, c'est des sortes de grands cylindres avec dedans des plateaux, et sur chaque plateau, une dose d'huîtres.
Et les huîtres vont grandir là-dedans?
Voilà, et elles vont être un peu tourneboulées pour faire en sorte qu'elles grandissent pas trop vite, parce que d'habitude, une huître, c'est pas en permanence sous l'eau. Là, du coup, on leur met des sortes d'hélices au fond qui les font tourner, et qui, en cassant un peu la dentelle, c'est quoi? C'est la nouvelle coquille qui est en train de se former. Ça fait qu'elles s'épaississent, elles s'endurcissent, pour pas être trop grandes, trop vite et trop fragiles.
Voilà, jusque dans cette technique d'élevage statique, elle est imaginée et mise en acte pour le calibrage. C'est cette lanterne qui tourne là, ça permet à l'huître en fait d'avoir une coquille calibrée telle qu'on la souhaiterait dans le commerce.
Et oui, puis à disposition, quoi, parce qu'on pourrait pas les relâcher en pleine mer. Je sais qu'avant, on récoltait les huîtres en draguant les fonds marins. Maintenant, ça se fait plus. Donc, soit il y a des ostréiculteurs qui les mettent dans des casiers, ce qui est la norme. Là, vu qu'elles sont trop petites pour tenir dans un casier, il faut les mettre dans ces filets-là, oui.
D'accord. Une dernière petite question au sujet de tes missions et quotidiennes, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui est aidant dans ton travail? Et qu'est-ce qui, au contraire, t'empêche de réaliser correctement, ou en tout cas comment toi tu penses bien travailler?
Ce qui est aidant, c'est quand on a un planning, qu'on sait un peu ce qu'on va faire dans la journée, qu'on n'a pas de surcharges qui font qu'on s'en sort plus à y être toujours au coucher de la nuit, quand on s'entraide et qu'on n'est pas à se tirer dans les pattes, quand il y a une forme de complicité entre nous et qu'on arrive à faire un peu... un peu équipe. Bon, après, on vend un peu le travail comme le fait d'être dehors, en plein air, bronzé. Ça serait comme la salle de sport, mais on serait payé. Bon, dans les faits, après 6, 7 heures, 8, 9, 10, les mains dans l'eau, à glisser avec nos bottes lourdes sur une dalle où il y a de l'eau, et on manque de se casser la figure en permanence, à charrier des seaux qui sont pas à la bonne taille, enfin bref, ça devient vite assez long et c'est plus le sport et la bronzette, quoi. On est plutôt à prendre des coups de soleil, à être dans l'humidité des bottes, voire des gants, et puis après avoir tous les problèmes qu'il y a dans les chaînes de production où les gestes sont répétitifs, donc problèmes d'articulation, de dos, de genoux, voilà.
Petite pause musicale.
Thank you.
Super.
Vous êtes toujours sur Canal Sud 92.2, c'est la chronique travail, on est avec Antoine et on parle de production de bébés huîtres. Alors, donc on a fait un peu le tour de comment ça se passait en gros le travail au quotidien et on va terminer avec un peu le gros de l'affaire. C'est quoi pour toi les enjeux de ce taf? Les questions politiques, écologiques, sociales, sanitaires que ça pose cette affaire?
Déjà, le principe d'un contrat, d'un CDD saisonnier qui, en fait, s'étale sur 3 saisons. Bon, moi, ça m'a un peu surpris, quand même. Puisqu'on arrive au printemps, on repart en automne. Alors, le maximum légal, c'est 8 mois. Bon, en fait, on voit que les entreprises utilisent ça pour la main-d'œuvre flexible, précaire. Alors, il n'y a pas de prime de précarité à la fin. On peut pas démissionner, ce qui est quand même assez étonnant. Il n'y a pas de clause pour ça dans le contrat. Alors, il faut demander l'accord à son employeur. Donc, s'il n'est pas d'accord, il te fait miroiter des poursuites ou je sais pas. Bon, dans les faits, c'est très rare. Les gens se cassent quand ils en peuvent plus. Après, du coup, avec ce que ça pose pour ouvrir des droits au chômage. C'est qu'aussi, ça coûte moins cher. Ces contrats saisonniers pour tout ce qui est cotisations, charges. Et la période d'essai est plus longue, donc on a plus de temps pour se décider si ça va ou pas. Sauf que même au regard de la loi, les tâches qu'on confie à un saisonnier doivent être temporaires et en dehors du champ habituel de l'activité de l'entreprise. Donc là, c'est quand même assez surprenant. De faire les 3/4 de l'année, en fait, et donc tout le chiffre d'affaires avec quasi exclusivement de la main-d'œuvre saisonnière. Et donc, c'est même au-delà du CDD classique, ça. Bon, c'est un type de contrat particulier. Après, la question du contrat court en elle-même, quand tu as quelque chose qui n'est pas tenable sur le long terme, puisque là, c'est pas ce que font les permanents, mais en plus court, c'est que on pourrait pas faire ça toute notre vie. Donc c'est un modèle de main-d'œuvre qui vient pour une saison et puis qu'on rince. Et bon, c'est du consommable, quoi.
Parce que pour toi, la pénibilité du travail au quotidien, elle permet pas d'aller au-delà de 8 mois, quoi, dans une année.
Ou alors d'évoluer sur des postes un peu où on se préserve un peu plus, mais non, sinon on peut avoir la vingtaine et déjà avoir ce qu'ils appellent les TMS, troubles musculo-squelettiques, de l'arthrose, une scoliose, une sciatique, pas mal d'accidents aussi, puisqu'on peut, il y a des quand même beaucoup d'arrêts maladie pour lesquels il y a une pression pour que les accidents soient pas considérés comme tels et que les arrêts maladie durent pas trop longtemps. Donc non, faire ça toute sa vie, clairement, non, c'est pas possible.
Et du coup, alors, ça c'était les enjeux, mais peut-être qu'on peut quand même trouver un peu des histoires enthousiastes, enfin, dans cette histoire collective, un peu des trucs qui permettent de résister un peu à ce que tu racontes. Est-ce que tu veux nous parler de lutte dans ce travail? Est-ce que toi, pendant les 8 mois que t'as passé dans les 7 mois que t'as passé dans cette boîte, est-ce qu'il y a eu des moments de lutte? Et si oui, sur quoi? Comment?
Bon, alors c'est vrai que c'est en permanence en tension, il y a du ressentiment quand même partout, et alors des éclats ou des coups de gueule en permanence, ça c'est clair. Après, il faut voir comment est-ce que ça pourrait se transformer en amélioration des conditions sur le long terme et pour ceux qui vont suivre. Il y a des choses qui sont déjà là, sur le fait de, pendant le Covid, d'avoir pu toucher une prime, de s'être confiné, ce qui n'était pas forcément un acquis. De plein de petites choses au quotidien, d'imposer le fait de covoiturer ensemble, de prendre un jour de congé quand on a un impératif personnel, de s'affirmer, de déclarer les accidents quand il y en a, de faire respecter la durée maximum légale, qui est quand même... Il y a de quoi faire hein, en 6 heures de suite et en 13 heures par jour. De se faire payer les heures sup quand c'est pas le cas, donc de garder des preuves des heures qu'on fait. Après, il y a toute une série de maladies professionnelles qui, à mon avis, sont pas reconnues comme telles, puisque les gens partent, on les revoit plus. La limite, c'est qu'il, comme on l'évoquait, il y a une division entre ceux qui ne font que passer et ceux qui sont là sur le plus long terme, qui voient pas les heures sup du même œil, puisque bon, il y a toujours est-ce que ça nous fait plus de paye ou est-ce que ça nous rend la vie impossible. C'est clair qu'on est tous plus ou moins dans la même situation et dans les faits pas tellement. Alors arriver à construire une unité de tous les salariés pour se mettre d'accord sur les priorités qu'il y aurait. Alors, je sais pas, ça pourrait être les heures sup sur la base du volontariat, sauf que ça se fait plus nulle part. Ça pourrait être certains avantages qu'on n'a pas, les paniers repas, ça pourrait être le temps pour se nettoyer qui n'est pas pris dans le temps de travail parce qu'on sort des passages de Karcher complètement dégoûtants. Donc bon, y aurait beaucoup à faire.
Et dans la pratique, est-ce qu'il y a des choses portées collectivement là-dessus ? Ou même des moments où vous en parlez, où vous imaginez faire quelque chose avec ces questions ?
On va pouvoir, oui, soutenir l'un ou l'autre qui va avoir ponctuellement des jours de congé à prendre, des arrêts maladie avec un complément à se faire payer. Le fait de, quand il y a vraiment trop de boulot, faire comprendre qu'il faut être plus nombreux, et ça peut avoir des répercussions, mais ça se fait sur un mode un peu où les choses... remonte par les chefs d'équipe, par des discussions individuelles avec la direction. Il n'y a pas vraiment de conflit assumé. Ça aussi parce que ceux qui restent sont en permanence au coude à coude avec la direction. Donc on ménage un peu la chèvre, le chou. Les gens veulent... garder leur boulot, ce qui se comprend aussi, quoi.
C'est une petite boîte aussi, 20 personnes, c'est aussi une équipe où j'imagine, même si vous êtes là peu de temps, les gens se connaissent bien, quoi.
Ouais, il y a déjà toute une période où il s'agit de se faire accepter dans le groupe, de montrer qu'on fait le boulot, parce que c'est ça aussi... Il y a une forme d'intégration qui se fait dans l'équipe sur la quantité de boulot qu'on abat. Donc on ne peut pas arriver d'emblée sur les questions qui fâchent.
Ok, et on va arriver à la fin de l'émission bientôt.
Mm-hmm. Il y a... Donc on a parlé un petit peu vaguement. Bon, c'est sûr que le statut de saisonnier... n'aide pas et ne contribue pas par parce qu'il est passager et non pérenne, il entrave la mobilisation et l'organisation collective, ça c'est certain. En termes d'enjeux écologiques, on est sur quoi là? Je sais que l'entreprise se targue d'être agroécologique tout en faisant de la manipulation génétique et en rejetant tout dans les marais. T'as quelque chose à dire, plus précisément ?
C'est comme toutes les entreprises, avec une priorité au rendement, à l'efficacité, qui fait qu'on va aller à la fois sur le, ce qui est sélection génétique sur les huîtres les plus productives. Bon, la question de est-ce que c'est adapté ou pas au milieu, il y a des polémiques là-dessus. Il y a toute une partie de la profession, les ostréiculteurs qui se disent plus traditionnels, qui eux revendiquent une autre manière de travailler. Après, oui, nous, c'est clair que on fonctionne avec des structures d'élevage où il y a beaucoup de jetables là-dedans, beaucoup de plastique. Bon, c'est, il y aurait beaucoup à redire. Voilà.
Merci, Antoine, c'était chouette. Et une petite dernière question personnelle pour finir là-dessus. C'est quoi la suite pour toi? Maintenant.
Alors, en fait, quand on calcule le nombre d'heures travaillées en saison, on arrive en général à la moyenne annuelle de ce que font les gens en général sur une année, quoi. Donc ça fait déjà pas mal.
Tu vas y retourner ou pas ?